Chapitre 19e. Trois jours se sont écoulés depuis le moment où Yvon Cloarec a quitté sa demeure sans prévenir sa fille de son départ. Cette habitation, ordinairement si calme, si riante, offre presque partout des traces à peine effacées d'une dévastation récente. L'un des pavillons attenant au bâtiment principal a été presque entièrement ravagé par l'incendie. Des décombres noircis au feu, des poutres à demi carbonisées couvrent une partie du jardin. La porte et plusieurs des fenêtres du rez-de-chaussée du bâtiment principal, brisées et défoncées à coups de hache, sont remplacées avec des planches, de larges taches rouges ensanglantent la muraille, et à quelques endroits, plusieurs des croisées des étages supérieurs ont été criblées par la mousqueterie. Il est nuit. À la clarté d'une lampe éclairant une des chambres à coucher de la maison, on voit Onésime. Les draps du lit où il est étendu sont çà et là tachés de sang. Le neveu de Suzanne semble sommeiller. Il est d'une grande pâleur. De temps à autre, une sorte de demi-sourire douloureux erre sur ses lèvres entrouvertes. Une femme âgée, vêtue en paysanne, assise à son chevet, le veille avec sollicitude. Le grand silence qui règne dans cette chambre est interrompu par le bruit de la porte, que l'on ouvre avec une extrême précaution. Bientôt, Dame Robert entre et, recommandant d'un geste à la paysanne de ne pas se déranger, elle s'avance sur la pointe du pied jusqu'au lit de son neveu. Dérangeant alors un peu l'un des rideaux, elle le contemple dans une muette anxiété. En trois jours, les traits de Suzanne sont devenus presque méconnaissables. La douleur, les angoisses, les larmes les ont marbrées et creusées. Après avoir silencieusement regardé Onésime pendant quelques instants, Suzanne, se reculant doucement, fit signe à la garde de venir auprès d'elle et lui dit tout bas « Comment a-t-il été depuis que je suis venu ?»« Il a paru moins souffrant, mais plus agité, madame. Il ne s'est pas plaint. Très peu. Il m'a plusieurs fois demandé des détails sur ce qui s'est passé, mais d'après vos ordres, je n'ai rien voulu dire. Grâce à Dieu, la connaissance lui revient. » « Oh, tout à fait, madame. On voit même qu'il parlerait davantage si on répondait à toutes ces questions. Il ne m'a pas demandé. » Aussi, madame, plusieurs fois il m'a dit « Ma tante viendra, n'est-ce pas? Ne viendra-t-elle pas bientôt ?» Je lui ai répondu que vous veniez presque toutes les demi-heures. Il m'a fait signe de la tête qu'il me remerciait, et puis il s'est assoupi, mais il s'est plusieurs fois réveillé en sursaut. Et il n'a pas paru souffrir davantage de sa blessure? Non, madame, seulement une ou deux fois il a eu comme de la peine à respirer. « Pourvu, mon Dieu !» dit Suzanne, en joignant les mains et levant au ciel des yeux humides de larmes, pourvu qu'il ne survienne pas d'accident mortel. Le chirurgien vous a pourtant rassuré à ce sujet, madame. Il m'a dit qu'il avait bon espoir, hélas, rien de plus. Madame, je crois qu'il s'éveille, dit la paysanne en écoutant, car Suzanne et elle s'étaient retirées derrière les rideaux du lit qui les cachaient. En effet, Onésime fit un léger mouvement sur sa couche et poussa un profond soupir. Suzanne avança la tête, s'aperçut qu'Onésime ne dormait pas et dit à la paysanne « Descendez dîner, ma bonne, je vous sonnerai plus tard. » La garde sortit, Suzanne vint s'asseoir à sa place. À la voix de sa tante, Onésime avait tressailli de contentement. Il lui dit, en la sentant assise auprès de lui « Vous voilà. Oh, tant mieux. Cher, cher enfant, » dit la gouvernante avec une émotion difficilement contenue. « Je viens de t'entendre soupirer. Tu souffres donc toujours, ou davantage, peut-être ? » ?»« Non, je vous assure, je me sens beaucoup mieux. » »« Tu dis cela pour me rassurer ? » ?»« Tenez, prenez ma main. Vous savez combien elle était brûlante, voyez. » »« Il est vrai, elle l'est moins. Et ta blessure, est-ce qu'elle t'élance encore beaucoup ?»« J'ai un peu de difficulté à respirer, voilà tout, ça ne sera rien. » »« Rien, mon Dieu, rien. Un coup de poignard en pleine poitrine, ma bonne tante. » « Que veux-tu ? » ?»« Et mademoiselle Sabine ?»« Tout le monde va bien, très bien, je te l'ai déjà dit. » Onésime secoua la tête d'un air d'incrédulité et reprit « Et monsieur Cloarec ?»« Tiens, mon enfant, ne parlons pas de ce qui s'est passé. Ne me fais pas de questions, je ne saurais y répondre, quand tu seras tout à fait sur pied, à la bonne heure. » »« Écoutez, ma tante, vous refusez de me répondre, de crainte de trop m'agiter, mais je vous le jure, l'incertitude où je suis sur le sort de mademoiselle Sabine et de monsieur Cloarec me désole. » « Tout le monde va bien, je te le répète. » « Non, ma tante, non, tout le monde ne peut pas aller bien, après cet événement terrible et encore inexplicable pour moi. » « Mais mon ami, je t'assure que... » Allons, voilà que tu t'impatientes, que tu t'agites. Mon Dieu, combien tu es peu raisonnable, Onésime, je t'en prie, calme-toi. Mon Dieu, est-ce ma faute? Pourquoi me laissez-vous dans une pareille anxiété, au sujet de Mademoiselle Sabine, de M. Cloarec? Mais je me tue à te répéter que tout le monde va bien. Et moi je vous dis que c'est impossible, s'écria le jeune homme, avec une animation croissante. Comment? Dans cette funeste soirée, l'on attaque cette maison de vive force, et au bruit de la fusillade, à la lueur de l'incendie, l'appartement où nous nous trouvions, Mademoiselle Sabine, vous et moi, est envahi par une bande de gens furieux, et vous voulez que je croie que Mademoiselle Sabine, qui tremblait au moindre bruit, n'a pas éprouvé dans cette soirée une commotion terrible, mortelle, peut-être? Onésime, au nom du ciel, écoute-moi. Et qui me dit qu'elle n'est pas morte? Calme-toi. Morte, ajouta-t-il d'un air égaré, et vous me le cachez, morte, si cela était, oh mon Dieu! Mon enfant, je t'en supplie. Et M. Cloarec, si sa fille est morte, lui qu'il aimait tant, où est-il? Qu'est-il devenu? Qu'aura-t-il fait après un pareil malheur? Je vous dis, moi, qu'il règne dans cette maison un silence de tombe. Malheureux enfant, mais c'est du délire. Non, ce n'est pas du délire. Hélas, j'ai maintenant ma raison, toute ma raison. Et avec elle me sont revenues les craintes, les pressentiments, et cela me tue, murmura Onésime, en retombant anéanti sur sa couche, car dans son agitation, il avait eu la force de se dresser sur son séant. Suzanne, effrayée, se pencha sur son neveu, souleva sa tête appesantie, lui fit respirer des sels. Peu à peu sa faiblesse se dissipa, et il dit à Suzanne qui sanglotait « Pardon, pardon du chagrin que je vous cause, mais si vous saviez mes angoisses, si vous saviez ce qu'il y a d'affreux pour moi, à penser que le matin même de cette fatale journée, M. Cloarec m'avait fait espérer un bonheur si grand, que je ne pouvais y croire. Et maintenant, tant d'espérances ne sont plus que larmes et cendres. Mais que veux-tu que je fasse à cela, mon Dieu? Vous croyez agir pour le mieux en me cachant tout, je le sais, pauvre et bonne tante, mais je vous le jure, vous vous trompez. La réalité, si affreuse qu'elle soit, me ferait moins de mal que l'incertitude dont je suis torturé. Quand je ne dors pas, les pensées les plus sinistres m'assiègent. Quand je ferme les yeux, ce sont des songes horribles et je me réveille en sursaut pour retomber dans des doutes pleins d'alarmes. Non, non, je vous dis que ce n'est pas vivre. J'aime mieux 100 fois la mort. C'est au moins une certitude. Suzanne, effrayée de la croissante exaltation d'Onésime et craignant qu'en effet les réticences dont elle s'entourait n'eussent un effet funeste, Suzanne s'écria. Eh bien, écoute, promets-moi d'être raisonnable, d'avoir du courage. Du courage? Ah, je savais bien, moi, qu'il y avait de grands malheurs. Tu vois bien? Que veux-tu que je fasse, que je dise? S'écria la malheureuse femme. Voilà déjà qu'au premier mot tu te désespères. Oh mon Dieu! S'écria Onésime avec terreur. J'en avais le pressentiment. Elle est morte. Non, non, elle vit, reprit la gouvernante. Elle vit. Je te le jure sur le salut de mon âme. Elle vit, te dis-je. Elle a bien souffert. Elle a été bien cruellement éprouvée. Tu dois le penser, mais sa vie n'est plus en danger. Elle a donc été en danger? Pendant 2 jours, oui, malheureusement. Mais tout à l'heure encore, j'ai causé avec elle. Son état est aussi satisfaisant que possible. Merci, mon Dieu, merci, dit religieusement Onésime. Merci à vous, ma bonne tante. Ah, si vous pouviez savoir le bien que vous me faites, l'adoucissement que j'éprouve, vous en seriez heureuse. Et j'en suis heureuse, mon enfant. Monsieur Cloarec est-il ici? Non. Il n'est pas auprès de sa fille? Non, mon enfant, non. Où est-il donc? On l'ignore. Oh mon Dieu! Mais dans cette nuit fatale, il est venu. Il a même été blessé légèrement. Et depuis, on ne l'a pas revu. Mais comment n'est-il pas resté auprès de sa fille? C'est inconcevable. Elle doit mourir d'inquiétude. Elle est bien triste, assurément, répondit la gouvernante avec embarras. Et cette sanglante attaque, et ces mots effrayants, inexplicables de Mademoiselle Sabine, qu'il me semble avoir entendu comme dans un rêve sinistre, lorsque je croyais sentir ma vie s'écouler avec mon sang. Oh, parlez, parlez, il y a des choses qui confondent ma raison. Comment, encore une fois, M. Cloarec n'est-il pas ici, auprès de sa fille? Mon pauvre cher enfant, c'est à grand-peine que je cède à ton désir, mais dans l'état d'agitation où je te vois, un refus de ma part serait peut-être dangereux. Oui, oui, bien dangereux. Je te crois. Écoute-moi donc. Je te le répète, du courage. Car les blessures de l'âme sont hélas souvent plus cruelles que les blessures du corps, et c'est surtout à l'âme, au cœur, que cette pauvre mademoiselle et son père ont été frappés. Ma tante, vous le voyez, je suis calme, j'aurai du courage. Tu te rappelles, n'est-ce pas, que dans l'après-midi de cette funeste soirée, M. Cloarec, qui avait quitté la maison sans qu'on le sût pour se rendre au Havre, envoya de cette ville un express à sa fille pour lui recommander de n'être pas inquiète, une affaire qui l'intéressait elle-même devant le retenir dehors pendant la soirée. Tu te rappelles bien cela, n'est-ce pas ?
Oui, répondit Onésime avec un soupir. Mademoiselle Sabine avait même un moment pensé qu'il s'agissait de quelques préliminaires relatifs à cette union, qui me semblait un songe. Hélas, oui, c'était trop beau, trop inespéré. Cela ne devait être qu'un songe. Tu m'as promis, mon pauvre enfant, d'avoir du courage. J'en aurai, continuez, je vous prie. Tu te souviens aussi de l'alerte qui avait eu lieu pendant la soirée même de l'arrivée de M. Cloarec.
Oui, ces deux hommes que Thérèse croyait avoir vus.
La pauvre fille n'avait que trop bien vu. Deux hommes, en effet, ainsi qu'on l'a su plus tard, s'étaient introduits dans le jardin, non pour attaquer la maison, mais pour reconnaître le passage. Ces deux hommes faisaient donc partie de cette bande armée. L'un d'eux en était le chef, mon enfant. La paysanne, en rentrant, interrompit l'entretien d'Onésime et de sa tante et fit signe à celle-ci de venir lui parler.
« Qu'y a-t-il ? » demanda tout bas Suzanne. « Monsieur Le Goffin vient d'arriver. »«
Et monsieur ?»«
Monsieur Le Goffin est seul. Il a demandé à parler tout de suite à mademoiselle. Thérèse est allée la prévenir et elle a fait dire à monsieur Le Goffin d'entrer. »
« Et il n'a donné aucune nouvelle de monsieur ?»«
Aucune. » « Dites à Thérèse de prévenir mademoiselle que si elle a besoin de moi, je descendrai à l'instant. »«
Oui, madame Robert. »
La garde sortit. Suzanne revint auprès de son neveu afin de poursuivre son entretien avec lui.